Combe, cinq épisodes d'une vie. Cinq épisodes d'une vie, tome 2. Suite du troisième épisode à Londres. Chapitre 8. La chose inconcevable. Cette fois, poussée à bout, Thérèse se dressa frémissante de colère. « Méchant, cruel, vous faites exprès, vous voulez que je pleure. Non, je ne pleurerai pas. » Elle essuya ses joues mouillées et ses yeux ruisselants. « Il vous faut une querelle, vous l'aurez, ah, mais vous l'aurez, à fond. Dites ce que vous avez contre moi, qu'on le sache enfin. J'en ai assez de vos taquineries et de vos sobriquets, je ne suis pas un glaçon. Vous me blessez tout le temps, et pourquoi? Je fais de mon mieux pour vous plaire. Ah, mon Dieu, je suis bien punie. » « Punie de quoi ? » fit-il le sourcil foncé. « Puni de m'être mariée sans avoir écrit chez moi. C'était très mal et c'était votre faute à vous. Vous m'avez bousculée, vous m'avez fait perdre le souffle et mon bon sens et tout. « Pierre !» cria-t-elle d'un ton désespéré. « Vous ne m'aimez plus, je le sens. » D'un bond, il fut à côté d'elle. Thérèse se trouva dans ses bras, la tête sur son épaule, la joue serrée contre le drap rude de son veston. Des deux mains, elle essaya de l'éloigner, elle l'écarta un peu, le regarda de ses yeux encore pleins de courroux. « Que tu es belle quand tu te fâches » murmura-t-il, lui glissant sa main sous la nuque pour rapprocher leurs deux visages. « Ah, tu crois que je ne t'aime plus ? Pardonne, Thérèse, pardonne. Il faut passer quelque chose à un amoureux fou. C'est vrai que je suis allée trop vite en besogne. Veux-tu que nous recommencions tout du commencement ? « Nous serons fiancés, dis, je te fais la cour sur un banc de Regent's Park. »« Je veux bien, dit Thérèse, donne-moi un peu de temps pour apprendre à être ta femme. » Deux ou trois journées exquises s'écoulèrent, en promenade, en petits goûters ici et là, au hasard des excursions. Thérèse, plus confiante, se laissait aller à des confidences naïves sur son passé. Parfois, elle s'interrompait pour dire « Mes petites histoires ne peuvent guère t'intéresser. Raconte-moi aussi quelque chose de toi et des tiens. » Mais aussitôt, il se rembrunissait. « Pourquoi se gâter la belle heure? Suppose que je n'ai pas de famille ni d'attache d'aucune espèce. Je suis moi pour toi. Ça ne te suffit pas ?» Elle ne pouvait guère insister, mais elle pensait « Je voudrais bien pourtant savoir s'il a encore une maman. » pour remplir nos devoirs envers elle. Ce n'était pas qu'elle ignorât que la conception de la famille en Angleterre n'est point ce qu'elle est pour les Français. Les liens plus lâches se dénouent facilement, même entre frères et sœurs, entre pères et fils, à moins qu'une affection spéciale et personnelle ne les maintienne. On se perd de vue facilement, on essaime jusqu'aux confins du vaste empire, on bâtit une ruche qui oublie la ruche mère. On reconnaît peu d'obligations envers les siens, soit matérielles, soit de sentiments. La tradition de classe, de collège, d'université est plus forte que la tradition de famille. Au rebours du français, le clan l'emporte sur le foyer. Cependant, Thérèse se promettait d'insister, plus tard, à Londres, pour savoir au moins si cette dame, qui fut une élève du cours Sylvain, vivait encore, si elle ne désirait point revoir le fils prodigue, si elle n'ouvrirait pas les bras à un jeune couple plein de bons sentiments. Chaque matin, pendant que Thérèse s'occupait dans leur chambre dans la salle, en bas, où se préparait le déjeuner, Pierre filait au village pour acheter un journal dans le petit kiosque annexé au bureau de poste. Il ne rapportait pas de courrier, n'ayant donné son adresse à personne, pour vivre comme des Robinson, pour oublier le monde et que chacun nous oublie, avait-il expliqué. Le journal en poche, il rentrait de bonne humeur et Thérèse le trouvait plus beau qu'à Londres, plus viril, plus grand, dans son costume de sport en drap bourru, culotte et bas de grosse laine. Il marchait d'un pas rapide, il faisait le gamin, entrant parfois dans la salle par la fenêtre basse grande ouverte, prenant aussitôt sa jeune femme par la taille et réclamant son déjeuner à grands cris. Le dernier jour de la troisième semaine de leur lune de miel, Thérèse demanda, en lui versant sa tasse d'un excellent café qu'elle faisait elle-même sur la table, « Je ne vois pas le journal dans ta poche. L'as-tu apporté ? » Il ne répondit pas tout de suite. Il semblait distrait, même préoccupé. « Le journal ? Où l'ai-je mis ? Il se retrouvera. Rien de bien intéressant ce matin. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, chère âme ? Si tu te reposais tout bonnement, tu as l'air fatigué. « Mais toi, demanda-t-elle un peu surprise, as-tu un projet ?»« Je louerai une bicyclette dans le village. Le fils du forgeron en a une qu'il loue et j'irai jusqu'à Gloucester. »« Sans moi ? Mais naturellement, tu ne montes pas à bicyclette. »« C'est vrai, ce talent me manque tout à fait. Je regrette. » »« Tu ne vas pas bouder, chère petite chose. Écoute, mon petit canard, my little ducky, suppose que j'ai une passion malheureuse pour la bicyclette. Supposer, avec toi il faut toujours supposer, dit-elle en tâchant de rire. Oui, suppose que ma santé de corps et d'esprit exige que j'aille à bicyclette au moins une fois par mois. Oh, je ne t'en empêcherai pas, dit-elle, pars avec ma bénédiction. Et avec un baiser, je me sers, fit-il. Il se servit en effet sur ses lèvres. Il semblait bizarrement excité. Tandis qu'il retenait Thérèse sous ses caresses, elle considérait ce visage tout proche du sien, où le signe particulier, le nœud de veines bleues à la tempe, palpitait à coups réguliers sous l'impulsion du pouls. « As-tu mal à la tête ? » demanda-t-elle, inquiète. « Pas du tout. Qu'est-ce qui te le fait croire ?»« Parce que tes veines, là, tu sais, cette petite araignée bleue qu'on voit peu à l'ordinaire, elle est très marquée et elle bat comme des coups de piston. « Je la sens, » fit-elle, posant son doigt sur la tempe de Pierre, puis le retirant par une sorte de répugnance. « C'est la seule chose de toi que je n'aime pas. »« Je tâcherai de me corriger, » fit-il d'un ton vague, l'esprit ailleurs. « Bonne journée, ma douce. Ne fais pas trop de bêtises en mon absence. » Restée seule, Thérèse mit en ordre la salle, puis chercha la bonne femme pour lui demander une leçon de cuisine. Elle se promena ensuite dans le jardin, rentra pour le lunch, chercha partout le journal sans le trouver, prolongea sa sieste pour tuer le temps, but son thé solitaire, s'en alla errer du côté du village. Hantée à chaque détour du joli chemin entre les haies par un souvenir, par une image, ses pensées s'envolaient comme des oiseaux vers l'absent, le cher absent. Elle se défendait d'une sotte tristesse, d'un sentiment de désolation absolument irraisonné, qui prenait les proportions d'un mal sourd dans tous ses membres, comme si elle couvait un accès de grippe. « Il m'a gâtée, voilà. Il m'a tellement entourée et portée sur ses mains, comme il est dit dans le psaume, que je me sens perdue pour une demi-journée où il me laisse seule. » Il fallait que le dîner fût particulièrement soigné et le dessert très joli dans le feuillage des coupes pour accueillir le voyageur à son retour. Thérèse se recoiffa, mit sa jolie robe, descendit. À 7 heures, Pierre n'était pas rentré. Ce qui vint, ce fut un télégramme. « Grand imprévu, ne m'attends pas ce soir. Tendre regret. »« Qu'est-ce qui peut le retenir à Gloucester ?» se demanda-t-elle. « Il n'y allait que pour se promener, c'est du moins ce que j'ai compris. » Vraiment, même par télégramme, il aurait pu me donner un mot d'explication. Grand imprévu, il aura peut-être rencontré un ami. Pendant toute la soirée et durant une longue insomnie, irritée, inquiète, énervée, elle retourna dans son esprit les circonstances de la journée précédente. Pierre était allé au village de bonne heure, il avait acheté le journal, il l'avait lu, il avait ensuite égaré. L'idée subite d'aller à Gloucester lui était venue à ce moment-là. Il avait été excité et bizarre pendant tout le déjeuner, il parlait au hasard, sa tempe battait. À la première heure, elle envoya la bonne femme au bureau de poste en la priant d'acheter le journal de la veille, s'il en restait, le journal que M. Coombe avait l'habitude de prendre. Dès qu'elle tint ses 12 grandes pages, elle les examina minutieusement, de la première à la dernière ligne, sans sauter un mot. Des nouvelles, il n'en manquait pas, puisque, comme tous les jours, on s'était battu sur plusieurs points du globe, puisqu'un quai s'était effondré quelque part, qu'un train avait déraillé près de Bruxelles, que plusieurs crimes avaient été commis en Angleterre et à l'étranger. Thérèse ne trouvait rien, absolument rien, qui pût concerner Pierre Coombe ou même l'intéresser. Elle chercha aux avis mortuaires. Bien des gens meurent tous les jours. Dans ces familles inconnues qui annonçaient le décès d'un des leurs, le nom de Coombe ne figurait point. Cependant, s'il avait appris ainsi, par le journal, le deuil soit d'un ami, soit d'un parent, pour quelle raison ne l'eût-il pas mentionné à Thérèse en déjeunant ? Toujours ce même mystère dont il aimait à s'envelopper. Mais à quoi bon se creuser la tête ? Pierre rentrerait certainement dans la journée. Vers 4 heures de l'après-midi, le facteur apporta une lettre recommandée. Thérèse l'ouvrit avec des doigts tremblants et en même temps elle s'exhortait. « Au moins, ce sera une nouvelle !» Elle tira de l'enveloppe un mince papier et une lettre sur laquelle elle se jeta. « Ma chère enfant, écrivait Pierre en anglais, je me vois obligée de faire une absence qui pourra se prolonger. Vous trouverez 12 livres dans la poche intérieure de ma valise dont vous avez vous-même serré la clé. C'est tout l'argent qui me reste pour le moment. Réglez avec la bonne femme et rentrez à Londres quand vous voudrez. S'y inclut le reçu de votre main les caisses de livres en magasinage à Victoria Station. Retirez-les au plus vite pour ne pas faire de frais. Vous retournerez peut-être à la pension Stephen, mais comme cela n'est pas certain, je vous écrirai poste restante aux initiales et chiffres TL 3333, grande poste restante de Holborn. En hâte, il ne faut pas m'en vouloir, nous sommes le jouet des événements. Tout s'arrangera. Il avait omis de dater et de signer. Le timbre postal était malheureusement indistinct.